Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Et bien maintenant, par l'électricité, on peut effleurer un contact et les cloches résonnent.
Cloche résonne, nous dit Marteneau. 15h sur France Culture, émission Fou du son, avec le pianiste Laurent De Wilde qui signe un ouvrage aussi indispensable que riche, Les Fous du son d'Edison à nos jours, paru chez Grasset. Tout savoir et tout comprendre sur ce qui anime les inventeurs des instruments du 20e et peut-être du 21e siècle, du thérémine au Moog en passant par les Japonais, et pas seulement Roland, il y a la figure pionnière de Torakusu Yamaha, enjeux économiques, recherche scientifique, amour du son. Un livre qui est comme un grand synthétiseur dont vous jouez avec jubilation et un style manifeste, Laurent De Wilde, pour ceux qui avaient déjà lu votre roman consacré à Thelonious Monk, on va dire que c'est une suite virtuose sur la mécanique des sons. L'autre invité de l'émission est lui aussi un fou du son, un bidouilleur plus solitaire, un auteur aussi qui aime à créer presque seul dans son studio depuis bientôt 40 ans, Gérard Manset, qui publie cette année Opération Aphrodite. Nous sommes allés à sa rencontre dans une ancienne gare, pas très loin d'ici. Et puis vous entendrez, Laurent De Wilde, quelques-uns des vinyles proposés à la prochaine vente aux enchères organisée par la discothèque de Radio France. Il sera encore question d'instruments curieux et de fous du clavier, mais on va commencer par vous, Laurent De Wilde. Continuons musique. Clic. Riddles, un extrait de votre prochain disque à paraître, Laurent De Wilde, c'est en duo avec Ray Lema, qui est lui au second piano. Qu'est-ce que vous faites pour obtenir ce son sur votre piano là? C'est un peu étouffé.
Ah, ça c'est mon secret maison. C'est de la pâte à fixe, c'est des languettes de pâte à fixe que je pose sur les cordes juste après les chevilles, ce qui fait qu'on n'étouffe pas le son de la corde, mais sa résonance. Et donc on a cette impression entre le balafon et la cora, et quand on met la pédale au bon endroit, là, toutes les pistes sont brouillées.
Magnifique. Et donc ce disque avec Ray Lema, qui sera une des sorties avant la fin 2016
Octobre, si tout se passe bien.
Quand vous m'avez confirmé que vous veniez, vous me disiez, on est en train de mettre le point final à ce disque.
Oui, absolument. On finissait de l'enregistrer la semaine dernière. Voilà, c'est en cours de mix.
C'est de la peinture fraîche.
Exactement.
Laurent De Wilde, normalien, devenu pianiste de jazz, passionné par la musique électronique. Ceux qui ont pu vous voir dialoguer notamment avec les machines de Tisto 23 s'en souviennent. Et puis écrivain aussi. Votre livre Monk en 97 avait été salué et même traduit en 5 langues. Vous signez Les Fous du son d'Edison à nos jours chez Grasset. 1 million de signes sans un seul point virgule. Je vous cite. Ça, c'était sur Twitter. 550 pages et 765 grammes. Il n'y a pas que des chiffres dans le livre. Une thèse de plaisir, pour reprendre le mot de Francis Marmande. Il y est question des pères fondateurs de la musique électronique. Edison, Cahill, Marteneau, Bob Moog. Faut pas dire Moog, faut dire Moog.
C'est lui qui voulait.
Voilà. Jean-Claude Risset, et puis vous nous invitez, Laurent De Wilde, à visiter en fait une sorte d'atelier de luthier géant, parce qu'on va vraiment comprendre le fonctionnement de tous ces instruments, le théatrophone, ils ont des noms géniaux, le théatrophone, l'odion piano, le terpsitone.
Très magnifique, joli. Le terpsitone.
Là, vraiment, voilà, culture grecque, qu'on sent tout de suite. Par quel instrument est-ce que vous êtes intéressé au fonctionnement, au bidouillage, Laurent De Wilde?
Historiquement, quoi, mon premier bidouillage. J'avais un orgue Farfisa Matador quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et il faisait les petites boîtes à rythme, rumba, bossa nova, etc. Alors le premier bidouillage, c'est de coincer deux boutons en même temps au lieu d'un seul.
ce qui fait un peu de scotch.
Voilà, un bout d'allumette. Et ça, ça donnait des résultats intéressants. Mais en fait, le moment de, d'hypnose, enfin, mes ondes alpha étaient survoltées, c'est quand j'ai acheté une pédale que je pouvais brancher dans le Farfisa qui montait le pitch de l'instrument.
Donc la vitesse, en fait.
Non, le pitch, c'est la hauteur du son.
La hauteur.
Hein? Alors, aujourd'hui, c'est un truc qu'on voit absolument partout. Mais à l'époque, un clavier, quand on jouait une note, elle bougeait pas, elle montait pas, elle descendait, elle restait à sa place. Et encore moins des accords. Et je pouvais, à 12 ans, jouer des accords à 6 ou 7 notes et appuyer sur la pédale et entendre tout l'ensemble de l'accord monter comme si un réacteur nucléaire s'était mis en route. Et la nuit, je vous avouerai que j'avais le Farfisa dans ma chambre et je répugnais à l'éteindre juste pour garder les petites lumières rouges et jaunes qui restaient allumées du clavier. Et je m'imaginais un concert d'Emerson, Lake & Palmer. Enfin voilà.
Oui, comme un vaisseau spatial.
Exactement.
Rapport de physique aussi avec la machine. C'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes qui conçoivent les interfaces, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour les nouveaux instruments, c'est très important le rapport qu'on va avoir, quel son elle va faire quand elle va s'allumer, quel signal elle va nous donner.
Voilà, et quel rapport physique on a avec l'instrument. Et bon, beaucoup de mes inventeurs sont soit eux-mêmes des artistes, des instrumentistes, ou alors très intéressés par la musique et en recherche constante de feedback de la part des musiciens qui essaient leur machine. C'est un aller-retour incessant qui, en fait, me paraît totalement naturel d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue spirituel, parce que, de mon point de vue, les artistes et les inventeurs font partie vraiment de la même famille.
C'est intéressant que vous prononciez le mot de spirituel, puisque c'est quelque chose qui va revenir, pas seulement parce que vous parlez de Sainte-Cécile, assez
notre
vite.
Notre patronne des musiciens. Voilà.
Oui, ce qui est bizarre, vous rappelez d'ailleurs qu'il n'y a pas grand-chose au départ qui justifie le fait que ce soit Sainte-Cécile qui soit devenue la Sainte-Patronne des musiciens.
Je pense une fièvre libératrice à la Renaissance qui en avait un peu marre de n'exhiber que des vieux barbus pour toute sainteté. Et c'était Grégoire, du chant grégorien, hein, qui avait bien bossé pour la musique et qui avait gagné ses galons de Sainte-Patronne des musiciens, mais à la Renaissance, enfin c'est comme ça que je l'interprète, hein, on en avait un peu marre des barbus, et Sainte-Cécile, elle était un peu plus sexy, quoi.
Voilà, puis vous parlez notamment du tableau de Raphaël, on la voit tenir un petit clavier.
Un orgue portatif, ouais.
Mais on ne sait pas très bien comment il fonctionne, mais voilà. Vous imaginez même que les ingé-sons de Roland, enfin les Japonais, quand ils ont commencé à créer leur premier clavier, se sont inspirés peut-être des petits boutons qu'on voit sur ce tableau de Raphaël.
Alors, c'est une piste extrêmement hasardeuse qui ne sera pas validée historiquement, mais je pense de toute façon que la volonté humaine de tripoter les boutons pour faire de la musique est aussi vieille que la musique elle-même.
Alors, l'ensemble du livre est vraiment très, très stimulant, assez passionnant. Vous racontez au début toute l'histoire des claviers, comment on invente les systèmes de touches, les différents orgues. Et puis, vous en arrivez à une figure qui va être très importante. C'est Thaddeus Cahill, qui va mourir en 1934. C'est l'inventeur du telharmonium qui va associer musique, son, électricité. C'est un fils d'immigré irlandais, très intelligent et précoce. Et déjà à 14 ans, il a l'idée de faire passer la musique par le téléphone, puisque le téléphone, c'est l'invention dont il est contemporain. Il voit ça, qui commence à se développer. Il se dit qu'il faut que la musique passe par le téléphone.
Mais oui, absolument. Il fait partie de la moderne génération téléphone. C'est-à-dire ceux qui grandissent dans les années 70. Le téléphone est une nouvelle invention. Ça vient d'arriver.
1870.
Oui, bien sûr, pardon, excusez-moi. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, les sciences avancent et les techniques avancent à une vitesse extraordinaire, qu'il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Des empires financiers, industriels sont en train de se construire et ce sont sur ces bases-là que nous fonctionnons encore aujourd'hui. Je dirais qu'entre 1880 et 1910, tous les paradigmes de notre modernité sont inventés, l'aéroplane, le moteur à explosion, l'électricité, le téléphone, le cinéma. Donc c'est une époque qui change très vite. Et donc Thaddeus Cahill, dont personne ne connaît le nom, à part vous, moi et quelques éclairés, et bien entendu les auditeurs de France Culture, la contribution de cet homme fut absolument extraordinaire, dans la mesure où il décide de chevaucher immédiatement ce nouveau média qu'est le téléphone, et il invente la musique en ligne. C'est-à-dire qu'il va inventer un orgue électrique. Déjà, c'est un truc complètement fou. Mais en plus, on ne va pas aller l'écouter dans une salle de concert. Non, c'est l'orgue qui va aller par le téléphone dans différentes salles de concert. Alors, c'est pas une invention propre à Thaddeus Cahill, puisque notre très cher Clément Ader, baptisé père de l'aéroplane, mais ces avions, ils ont jamais vraiment décollé de plus de 40 cm. Par contre, c'est lui qui a équipé Paris en téléphone, le premier réseau téléphonique, c'est lui. Et c'est lui qui a inventé le théâtrophone, c'est-à-dire une retransmission, en 12 voix, de ce qui se passait sur le plateau de l'opéra. Et ce qui est hallucinant, c'est que ces douze voix différentes, ces 12 sources sonores étaient mixées en un droite-gauche stéréo, 70 ans avant l'invention officielle de la stéréo. Et donc, on écoutait ça en collant un cornet du téléphone sur chaque oreille et on entendait avec pas mal de précision ce qui se passait sur la scène de l'opéra à l'autre bout du téléphone.
C'est ce que faisait Marcel Proust.
Hein. Exactement. Marcel Proust a écrit, voilà, pour les vrais mélomanes, on doit pouvoir reconnaître le titre de l'œuvre associé à la page de Marcel Proust qu'il entendait au théâtrophone. Et donc, Cahill, lui, il dit bon ben voilà, moi je vais créer un instrument qui va diffuser de la musique par le téléphone, et puis ce seront les restaurants, les salles de spectacle, tous les lieux publics qui veulent avoir un peu d'environnement musical, parce que ça c'est quelque chose de très nouveau aussi. Avant 1870, on n'enregistrait rien. Il n'y avait pas de bande magnétique, là. Elle arrivera dans les années 40. Ça, c'est beaucoup plus tard.
S'il y avait de la musique, c'est qu'il y avait un musicien qui jouait près de vous.
Exactement. Le phonographe, c'est inventé à la fin des années 70. Et en plus, Edison ne se rend absolument pas compte qu'il a inventé quelque chose de magnifique. Il croit qu'il a inventé le dictaphone pour les secrétaires, pour dicter le courrier de leur patron. C'est à ça qu'il le destine. Et d'autres malins comme Émile Berliner, comprendront l'intérêt de son invention, passeront du rouleau très encombrant au format du disque, qui est encore celui que nous utilisons aujourd'hui, grâce soit rendue à Émile Berliner, et qui invente dans la foulée le concept de maison de disques, c'est-à-dire puisqu'on garde des disques, faut des gens à enregistrer. Et au début du XXe siècle, la Deutsche Grammophon à laquelle il participe et qu'il cofonde comporte déjà plusieurs milliers de titres.
Ce qui est singulièrement différent, ça changerait sans doute son fonctionnement si on avait appelé ça maison d'artiste. Ça dit l'intérêt de l'entreprise. Puisqu'on est à la radio, je voudrais vous faire entendre le musicien et inventeur des ondes, Maurice Martineau, qui présente son instrument de musique électronique.
On peut par l'électricité obtenir une synthèse des vibrations les plus complexes. Mais malgré tout, il est très intéressant de pouvoir jouer à la fois sur le domaine électrique et sur le domaine acoustique. C'est la raison pour laquelle j'emploie des diffuseurs de types différents. L'instrument a une étendue pratiquement de 7 octaves. Néanmoins, on peut le désaccorder pour atteindre des régions absolument inusitées des instruments traditionnels. Voilà, en descendant dans le grave, par exemple. Même aller jusqu'à la région, jusqu'à une analyse de la vibration, jusqu'au battement même, qui peut être compté.
On peut compter le nombre de battements, oui. C'est du moteur beauté.
Oui. N'est-ce pas, c'est ce battement qui, de plus en plus rapide, nous donne cette vibration qui devient ensuite beaucoup plus pure. Et dans la main droite, nous entraînons ce ruban qui joue le rôle d'armature variable d'un condensateur. Il est partiellement métallique et modifie la capacité. Ce qui nous permet de couvrir l'étendue que vous entendiez il y a quelques instants.
De définir la hauteur du son.
Exactement.
Mais pardon, je vois que vous faites un léger vibrato.
Je suis absolument hostile à l'automaticité.
Ah bien. Nous enchaînons pour terminer avec
une chanson à boire mongole, dans laquelle l'onde donne des percussions qui rappellent des petits tambours accordés, en quelque sorte.
Il fallait bien bien ça, pour vous, Laurent de Wild, une chanson à boire mongole.
Alors, c'est magnifique.
Ça vient d'une émission, Le Micro, c'est inconnu, magazine des arts sonores mécaniques à la RTF, on est en mai 1950. Jean-Wilfried Garrett et José Bernhardt interrogent Maurice Marteneau, professeur au conservatoire et inventeur des ondes, qui porte son nom donc, les ondes Marteneau. Comment expliquer que cet instrument magnifique, qui sert toujours, d'ailleurs, des groupes comme Radiohead ont pu faire appel aux talents de musiciens. Je pense à Christine Hott, par exemple, en France,
sûr,
qui est une
ouais.
très bonne interprète des ondes Marteneau. Mm-hmm. Comment expliquer que cet instrument qui a des possibilités telles soit si peu exploité, Laurent de Wild ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que malheureusement, la réponse se trouve toujours au même endroit. C'est des histoires de sous. Je pense que... il y a le fait que c'est un instrument qui est coûteux à faire, hein. On peut en acheter, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Dirnstein qui continue d'en fabriquer et bon, c'est toutes des pièces uniques quoi, c'est pas fabriqué à la chaîne. Donc déjà ça c'est un
très beaux objets aussi.
Ah ouais ouais, et puis c'est un instrument magnifique avec un clavier flottant, c'est-à-dire on peut faire un réel vibrato sur le clavier, ce qui est un truc que en principe est complètement interdit à un claviériste. Et je pense que Il en dit assez long également, parce qu'effectivement, il y a un gros répertoire d'ondes Marteneau qui a été écrit par René Guerre, par Varèse, beaucoup de monde. Et je pense, Pierre Boulez, son premier job de musicien, son premier cachet d'intermittent, c'était ondiste à la compagnie Renaud Barreau. Et dans les années 50, tous les music halls avaient des ondes. Alors, pourquoi est-ce que... Je pense que la musique, ça en dit long sur l'incapacité de l'instrumentarium classique à se renouveler. Je pense que le début du siècle, en particulier l'entre-deux-guerres, est absolument magnifique d'inventions totalement délirantes en matière d'instruments nouveaux. Et c'est drôle de voir comment, je dirais que la communauté classique s'est un petit peu rigidifiée. Alors, elle encourage quand même ces grands artistes qui écrivent des choses pour les ondes Marteneau. Comment il s'appelle? Bon, Boulez, bien sûr. Également, celui qui a écrit Les Oiseaux, là.
Messiaen,
merci.
Olivier Messiaen.
Donc, tout ça, c'est des gens qui valident cet instrument, mais en quelque sorte, le grand public ne suit pas.
Peut-être parce que le grand public ne peut pas acquérir l'instrument.
Ouais. Moi, je ne l'ai jamais vu en magasin de musique. Quand j'étais môme, je bavais sur les Fender Rhodes, les Moog, les Farfisa, mais effectivement, on ne trouvait pas d'onde Marteneau en magasin. Je pense que cela tient également à la personnalité de Maurice Marteneau, qui était un inventeur. C'est un homme extraordinaire parce qu'il était professeur de musique. C'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé sur la relaxation, sur le geste musical, sur l'inspiration, tout ça. Et il a une méthode de relaxation spirituelle qui est enseignée aujourd'hui, tout ça. Donc c'est quelqu'un son invention, c'était pour faire de la musique, c'était pas pour faire du pognon. Et il y a un moment où, si on veut faire du pognon, il faut commencer à couper les angles et à s'arranger de choses. Et lui, ça lui était absolument impossible. D'ailleurs, il y a eu une très courte période pendant laquelle il a fait fabriquer ses ondes par quelqu'un d'autre et où il en était extrêmement mécontent. Et là, il jure qu'il ne donnera plus l'autorisation à personne. Alors, c'est sûr qu'avec cette attitude, on ne va pas très loin dans l'industrialisation.
Alors, l'exemple inverse, vous l'avez mentionné, et en plus, il y en a un juste derrière vous, c'est le Rhodes, Harold Burrow Rhodes, qui va à contre-pied de toutes les démarches précédentes, notamment celle de Cahill, puisqu'il y a un raffinement de techniques, sont souvent des physiciens, des chercheurs, des gens qui ont trouvé des astuces techniques. Lui, au contraire, va concevoir un clavier qui est très simple. En fait, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement un piano qui va être beaucoup moins lourd. Que pourront jouer au départ les soldats blessés qui reviennent de la guerre, vous expliquez tout ça très bien dans le livre, et qui sont démoralisés. Et puis il y a un général qui se dit, mais si les troupes sont démoralisées au pays, on va perdre dans notre pays, et puis en plus à l'extérieur, donc il n'est pas question de ça. On va leur donner les moyens de faire de la musique, et cette invention, là, ce petit clavier que vous avez inventé.
Qui commence par fabriquer eux-mêmes, ce qui est en plus un saut conceptuel extraordinaire, parce que les pianistes n'ont même pas le droit d'accorder leur piano. C'est vraiment... On est comme des pilotes de course. Alors, il y a les mécaniciens, il y a les gars qui changent les pneus, les gars qui changent le moteur. Mais alors, nous, c'est...
Touchez pas la clé d'accordage.
Exactement, surtout, vraiment. Et donc, déjà, dans le processus, d'appropriation de l'instrument, c'est magnifique. C'est-à-dire, il est en pièces détachées, il arrive dans une boîte, on le monte. Et puis après, il y a la méthode Rhodes. C'est marrant parce que ça ressemble à la méthode Rose sur laquelle moi j'ai appris la musique. La méthode Rhodes apprend donc à jouer la musique en la déchiffrant, mais en comprenant ce qu'on joue, harmoniquement, mélodiquement, rythmiquement. C'est une espèce d'enseignement accompagné et généralisé aussi. Tout comme Maurice Martineau, Harold Rhodes était... selon lui,
un pédagogue,
un enseignant, et il a jamais crâné sur son piano, qui était son obsession. Lui, il avait vraiment un système. Il s'est acharné toute sa vie à perfectionner le système qu'il avait inventé. Mais la seule chose dont il était vraiment fier dans son existence, c'est sa méthode.
Et si on écoutait ce que ça donne, alors parce que vous vous racontez bien toutes les étapes du clavier de fabrication. Au début, c'est un petit clavier assez modeste, et puis ensuite, il va s'associer à Leo Fender. Vous parlez d'un geste très élégant économiquement, où il est question de rachat de parts pour permettre aux deux sociétés de rester toujours jointes les unes aux autres quand Columbia veut acquérir Fender, et ce qui va permettre de fabriquer à haut niveau et puis à haut volume des instruments plutôt bien faits, assez simples, qu'on peut commercialiser. Et qui ont un son magnifique.
Inestimable.
On vous écoute, alors vous m'avez dit, ça va s'appeler Continental Blues.
Oh yeah.
Continental Blues, oh, c'est très bien. Laurent de Wilde en direct sur France Culture qui rejoint le clavier Rhodes. Et je crois que celui-ci, si je ne me trompe pas, Marcel Bourdon qui nous le loue, me disait que celui-ci avait appartenu à Claude François. Vous vous rendez compte?
Ah, ça m'étonnerait pas. Marcel Bourdon, qui s'occupe merveilleusement des Rhodes de la maison de la radio, que je salue parce qu'il s'est très bien occupé des miens aussi, et je le remercie dans le livre aussi parce que j'ai été lui triturer le cerveau pour obtenir des informations confidentielles qu'il a toutes livrées sans résistance.
Laurent de Wilde, en direct sur France Culture. Laurent de Wilde, en direct sur France Culture. Merci pour ce continent blues. Donc, et on a entendu vibrer les petites, c'est comme les petites tines, voilà, à l'intérieur de ce clavier. Les fous, je signale que votre livre, Les Fous du Son d'Edison à nos jours, hein, c'est paru chez Grasset. Je renvoie à votre site, hein, laurentdewilde.com, où il y a beaucoup d'informations avec les sons et tout. Et puis, vous serez en concert, je crois, le 17 juin prochain, au Lille Piano Festival. Restez avec nous. Marc Maret est arrivé et nous présente quelques vinyles. Et Marc Maret, directeur de la discothèque de Radio France, vous êtes venu pour nous présenter la suite de l'exploration des vinyles qui seront mis en vente par la discothèque le 19 juin prochain à la maison de Radio France. Ce sera à partir de 14h.
Oui, oui, là nous nous retrouvons dans le lot de 359, donc effectivement cette vente de vinyles qui va être organisée le 19 juin à partir de 14h. Donc là, on va découvrir, on va explorer un lot, je le répète, le 359, à votre hommage avec les ondes Marteneau.
Oh yeah.
Oh yeah.
Sur un disque, alors il faut que vous le
Oui.
Montrez-le, parce qu'il y a un livret.
Il y a un livret assez extraordinaire, je vais d'ailleurs vous le passer pour qu'on le découvre ensemble.
Ah, formidable, merci.
Donc là, on est en 1959, on est sur le label Paris Michel Magne et sa musique tachiste. Nous retrouvons Jeannine de Wallen, ondiste.
Bon, on l'écoute alors.
Alors, c'est parti.
Voilà, les ondes Marteneau qui prennent le relais de la voix de la chanteuse, c'est quasiment imperceptible. Larmes en sol pleureur plutôt, donc ce morceau extrait d'un chagrin en mitouflé. Et c'est l'album, ce très beau disque que vous nous avez apporté, Marc Maret, Musique tachiste. Et vous prenez des photos, Laurent de Wilde.
Je suis en train de me délecter du livret de Sempé que j'avais jamais vu de dessin de Sempé. Alors il y a des grandes orgues avec des médecins qui sont penchés, des chirurgiens qui sont penchés au-dessus d'un piano à queue qui visiblement est très malade. Je ne savais pas qu'il existait un dessin de Sempé d'un gars qui jouait du synthé, quoi. Alors enfin sauf c'est un synthé, j'essaie de le décrire, c'est une espèce d'armoire de 20 mètres de haut comme l'effet Sempé, entièrement boulonné en acier avec plein de voyants partout, et il y a un tout petit monsieur qui a l'air très savant avec une blouse blanche qui appuie sur trois boutons. On est entre Tati et 2001 Odyssée de l'espace. J'adore.
Oui, ces dessins. On connaît beaucoup les dessins de Sempé qui représentent des chefs d'orchestre, des violonistes, mais c'est vrai que ceux-ci qu'on trouve dans ce disque Musique tachiste de Michel Magne sont beaucoup plus rares. Ça, c'est très très beau. Alors ça va être encore mieux ce que vous nous apportez la suite.
Alors là, on se retrouve dans le lot 227. J'adore parler de lot, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors là, on se retrouve sur on va dire un monument. On est en fait en plus cette année les 50 ans d'un album extraordinaire des Beach Boys, le Pet Sounds, qui est donc sorti le 16 mai 1966 sur le label Capitol.
50 ans tout juste.
Et c'est marrant, en cherchant, c'est vrai qu'on se rappelait plus, mais à l'époque Sir McCartney avait dit que c'était l'un des plus grands album jamais sorti du monde entier, alors qu'on sait très bien que le Brian Wilson était toujours à la conquête de dépasser les Beatles. Et donc là on est sur une chanson avec une présence d'un termine sur I just wasn't made for this time.
Ah oui, ce serait peut-être la première fois qu'on entend un térémine dans la musique pop, mais vous aviez l'air d'avoir un doute, Laurent de Wilde.
C'est difficile en musique pop parce que ça passe un petit peu pour térémine, passe beaucoup de choses qu'ils ne sont pas forcément.
On va écouter, vous nous dites votre avis.
I think I got
Ah là là, on ne sait pas bien calé sur la platine. Ça arrive un petit peu plus tard. Vous pourrez retrouver « I just wasn't made for these times » de Brian Wilson, enfin des Beach Boys. Donc, dans cet album « Pet Sounds », un grand classique qui fait partie donc des très beaux lots et vinyles. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent écouter les vinyles au catalogue de cette vente. Si vous nous envoyez un mail, vous regardez le catalogue de la vente et vous nous dites ce que vous voulez entendre. Et on vous les jouera. Et la suite...
France Culture,
Continent Musique,
Mathieu Conquet.
Animal, on est mal, on a le dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal.
Animal, on est mal, c'était en 1968, deux ans après Pet Sounds des Beach Boys. Un certain Gérard Manset publiait un 45 tours innovant, lui aussi, à différents points de vue, notamment au niveau du montage, hein, vous l'entendiez. Ce n'est pas pour cette dernière symphonie que nous l'avons rencontré, Gérard Manset, mais pour son dernier album paru, Opération Aphrodite. On a rencontré Gérard Manset pas loin de la maison de la radio, dans une ancienne gare de la petite ceinture de Paris, pour parler à la fois de Pierre-Louis et de science-fiction qui constituent les points de départ de cet album. Gérard Manset a souhaité réagir à ce qu'il avait entendu un soir dans la dispute d'Arnaud Laporte sur France Culture. Le journaliste des Un Rock, Christophe Comte, ne l'avait pas épargné. Occasion offerte pour Gérard Manset de redéfinir son travail et sa place. Réponse donc à Christophe Comte par Gérard Manset.
La première réponse, c'est sur le plan technique, j'ai dit moi-même très souvent, étant producteur, ayant réalisé pas mal d'albums, il y a deux sortes de voix. Il y a des voix qui endorment, il y a des voix qui sont monotones, monocordes, et puis il y en a qui ont du charme. Et puis, par exemple, Jean Sablon, il pouvait chanter trois notes, on avait l'impression qu'il y avait une mélodie. Puis il y en a d'autres, ils peuvent chanter 50 notes, on a l'impression qu'il n'y a pas de mélodie, et c'est mon cas. Et puis, ayant très mal vécu ces quelques phrases jetées à l'arrache, mais après tout, j'admets tout à fait que des gens n'aiment pas ce que je fais, que j'en agace beaucoup depuis un certain nombre d'années, en étant toujours dans le paysage avec mes mêmes ressassements passéistes. Mais je voudrais répondre par antenne interposée sur deux points. Le premier, c'est toujours les mêmes synthés, toujours la même boîte à rythme. Il n'y a pas de boîte à rythme, un reggae qui n'en est pas un, oui. Mais Beethoven, il utilise toujours les mêmes... Alors, c'est pas pour me comparer à Beethoven, mais Proust utilise les mêmes mots, la même typo, le même vocabulaire, la même grammaire, la même structure dialectique. Et Beethoven utilise les mêmes accords, les mêmes arpèges, les mêmes harmonies, les mêmes envolées, les mêmes instruments. Pourquoi en changerais-je? Je suis dans un univers, encore une fois, où je gère tout, où j'ai tout sous la main. Donc, je suis pour le classicisme. Donc, je reste dans le classique.
Ah, mais il faut nuancer, puisqu'on sait votre passion pour Picasso, c'est quelqu'un qui a changé de matériaux, pour le coup, et même de technique.
Pas vraiment. Il n'a pas fait intervenir des ballons gonflables. Il est resté dans la sculpture, il est resté dans le modelage, il est resté dans la couleur. Il avait tout sous la main. C'est ça que je veux dire. On est dans une sorte de pop musique où les limites sont différentes. Des samples, j'en ai utilisé. J'étais le premier à utiliser des samples. Donc à 20 ans, j'avais déjà cette possibilité. J'ai jamais eu de limites. Donc faut pas croire que j'ai des limites. Quant au fait de reprendre mes titres, oui, je reprends mes titres. On va dire à l'identique, ce qui a marché une fois, pourquoi ne pas le peaufiner? Quand on reprend un texte en littérature, j'en ai beaucoup, je n'ai pas encore publié, je les rouvre, je les réécris, mais je les réécris, je les reformalise, mais ça reste toujours le même fond de sauce, je suis comme ça. Moi, je me fous royalement de, pas simplement de gagner de l'argent ou de tirer quoi que ce soit de tout ce matériel, je suis simplement aiguillonné par une sorte de poignée d'inconditionnel. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai peut-être pas poursuivi par la scène, parce que je veux pas péter ce miroir, casser la poche que l'eau déferle, une eau que je ne connais pas. Je veux rester dans mon petit monde, dans mon petit ruisseau, avec mes petits outils, mes petits objets, et continuer à bricoler. Mais je voudrais terminer, oui, l'aspect positif de ça, parce que ça m'a quand même interpellé. Et puis, je me suis réveillé très ensoleillé de l'intérieur, en me disant « Eh ben merci mon Dieu, Moi, j'aime Proust. Je fais partie de la famille de ceux qui aiment effectivement Balzac, qui aiment ce genre de poésie, ce genre de rêve. On a le droit de rêver. Je suis encore dans ceux qui ont besoin, peut-être pas du Petit Prince, mais d'Andersen. Et je plains ceux qui ne sauraient faire qu'au hip-hop d'aujourd'hui et qu'au sample et qu'au machin, qu'au platine. Et qu'au, voilà. Il n'y a pas que les boîtes de nuit, il n'y a pas que le champagne, que les magnums à faire péter sur les poitrines de jeunes filles dans des piscines. Voilà. Non. Moi, je suis dans une poésie passéiste. Oui, on en revient à Aphrodite. Eh bien, je bénis le ciel de rêver en m'endormant et de voir Aphrodite venir me caresser dans mon sommeil. Elle lui dit, je suis arrêtée. L'autre avait des paupières faibles, des mains délicates et des seins tendres. Elle lui dit, je suis triffée. Et toutes deux reprirent, choisis entre nous. Mais le subtil Odysseus répondit sagement, « Comment choisirais-je ? Vous êtes inséparables. Les yeux qui vous ont vu passer l'une sans l'autre n'ont surpris qu'une ombre stérile. De même que la vertu sincère ne se prive pas des joies éternelles que la volupté lui apporte. De même la mollesse irait mal sans une certaine grandeur d'âme. Je vous suivrai toutes deux, montrez-moi la route. » Aussitôt qu'il eut achevé, les deux visions se confondirent et Odysseus connut qu'il avait parlé à la grande déesse Aphrodite.
Les jambes écartées et la joue dans la main, elle piquait de petits trous symétriques dans un oreiller de lin vert avec une longue épingle d'or.
Gérard Manset, on est avec vous pour la publication de ce disque, Opération Aphrodite, où vous apparaissez donc bien entouré. Hein, d'un côté, Pierre-Louis et son roman des mœurs antiques, Aphrodite, donc. Et puis de l'autre, donc on va entendre des lectures hein, dans le disque, des extraits en tout cas de ce roman. Et puis de l'autre, des illustrations qu'on voit ici hein, de René Brantone. Là, on est vraiment du côté de la science-fiction. Ceci sans que le rapport soit évident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien que vous faites entre ces deux Aphrodites, Gérard Manset?
Alors, le lien, il est contestable, en ce sens que je n'ai aucun passé, aucune culture générale autre que le ressenti, on va dire, artistique, la sensualité, le sentiment de quelque chose, et que j'ai le droit, comme Picasso, comme Matisse faisait ses doigts, je l'ai coupé sur son oreiller, dans les derniers instants de sa vie, ben de prendre des ciseaux, de découper ce que je veux, de les coller. Et voilà, en l'occurrence, c'est un petit peu ce qui s'est produit entre les illustrations de René Brantone qui représentent pour moi une partie de mon enfance, parce que c'était les années 50, 60, 70, les 280 premiers numéros de la collection Anticipation qu'il a illustré intégralement, qui pourrait s'apparenter pour moi au niveau de la qualité esthétique et du rêve à Magritte. Ben voilà, j'y attache une importance énorme depuis toujours et ça m'a semblé évident, dû au titre. Alors oui, quand même, il y a un lien. C'est le titre Opération Aphrodite qui est celui de la typo d'origine que j'ai gardé et c'est d'ailleurs celui-là qui m'a incité à repenser à mon Aphrodite de Pierre-Louis et à aller le chercher. Quant au fait de couper, de coller et d'utiliser des matériaux un peu de nature très différente, la raison en est que je suis seul, je fais tout seul. Il n'y a pas 40 personnes qui bossent autour de moi, il n'y a pas des ingénieurs du son, il n'y a pas des orchestrateurs, il n'y a pas des graphistes. Je fais le graphisme, je suis compositeur, je suis orchestrateur, donc tout ça a l'air un peu nombriliste, mais c'est venu comme ça, avec le temps. Donc forcément, je pioche. J'ai dans mes discothèques, dans mes phonothèques, dans mes bibliothèques, des archives telles que je peux choisir telle couleur, tel son, faire venir tel musicien. Et donc je n'ai absolument aucun préalable, je le disais, sur le plan culturel. Donc si j'ai besoin d'une trompette bouchée, ben, je prends une trompette bouchée. Mais ça n'est pas un caprice, ça m'est venu dans la nuit, ça m'est venu au matin. Et voilà, c'est... ou alors c'est le caprice ultime de tout pouvoir choisir. C'est l'enfant qui joue avec ses jouets, la chambre est pleine, il y a des Legos partout, ben voilà, je... Il y a d'ailleurs eu un très beau titre qui s'appelait « Comme un Lego », on y revient, voilà, c'était « Comme un Lego ».
Ça, évidemment, vous faites écho à un texte que Alain Bachung chantait, je crois que c'était dans Bleu Pétrole.
Oui, bien sûr, c'est un texte et une musique dont j'étais l'auteur, j'en suis très fier.
Comme elle est belle dans le matin,
quand je la vois passer. Avec un livre ouvert, je crois le lys dans la vallée. On pourrait croire qu'elle est un ange venu sur terre se promener avec de blondes ailes dans le dos croisé.
Opération Aphrodite, c'est un album qui est assez fidèle à la forme de l'album. Aujourd'hui, on dirait concept avec ouverture, récit, celui d'Aphrodite, et puis une forme de chapitrage par les lectures qui entrecoupe les chansons. Est-ce que vous êtes formaliste, Gérard Manset ?
Je suis, et je l'ai toujours défendu, en privé, avec mes amis, et surtout sur le plan littéraire, c'est là où ça achoppe avec beaucoup de monde, sur la forme. Ça ne veut pas dire que je sois un formaliste, c'est pour ça que je rebondis, mais je suis attaché à la forme, jamais au fond. C'est pour ça que j'aime Balzac, c'est pour ça que j'aime Zola, c'est pour ça que j'aime Maupassant. J'aime la langue française et je n'aime pas, ou je me méfie, ou j'évite les traductions, quels que soient leurs auteurs, parce que la traduction, c'est une sorte de préservatif sur la langue française, sur la langue. Et donc, j'aime la place de chaque mot, j'aime les inversions des mots, j'aime le mot par hasard tombé où il ne devait pas, mais que quelquefois Zola garde. Je suis attaché à la surface plutôt que la forme, à la surface esthétique et à ce que représente en émotion l'apparence.
Je voulais parler, Gérard Manset, d'un des textes de cette opération Aphrodite, l'Andicotal. C'est, je crois, un des premiers textes qui vous est venu pour cet album. C'est une sorte de western oriental, de rêve courtois. Qu'est-ce qui s'est déclenché avec ce texte ?
De rêve courtois, c'est très bien, rêve courtois. Je rebondis sur rêve courtois. Je suis quelqu'un qui a domestiqué, comme une sorte de fauve téméraire, mais que voilà, qui maintenant m'obéit au doigt et à l'œil, l'inspiration. Et cette inspiration, j'ai toujours su, très jeune, qu'en marchant, elle arrivait, qu'il fallait toujours être vigilant, avoir un crayon dans la poche, un papier, ne plus répondre à quelqu'un qui m'aimait, tout de suite noter autre chose. Bon. Et puis, petit à petit, elle est venue le matin, la nuit. Et alors, elle vient très souvent entre deux songes, entre 5h et 7h du matin. Et quand les phrases viennent, je suis tenu de me relever, de les écrire immédiatement. Et là, l'Andicotal, c'est ça, c'est un des derniers. Voilà, je roulais dans un carrosse vers l'Andicotal sur deux animaux à bosse harnachés de métal. La princesse du Waziristan dormait à mes côtés sur un petit coussin d'argent, sa nuque était posée. Ça me vient en bloc, en vrac, boum. Alors, comment ne pas se lever, ne pas l'écrire, ne pas prendre la sèche tout de suite et ne pas pondre, c'est le terme exact, en trois quarts d'heure cette chanson. Je prends ma sèche tout de suite, je fais un mi mineur et je balance le truc. Mi mineur, ré, et voilà, et l'Andicotal est fait.
Ah, je roulais dans un carrosse vers l'Andicotal, sur deux animaux à bosse arrachés de métal. La princesse du Waziristan dormait à mes côtés. Sur un petit coussin d'argent, sa nuque était posée. Dans une grande forêt de santal, au pied d'un cornouiller. Elle avait perdu 500 balles, j'étais agenouillé. J'étais agenouillé, j'étais agenouillé.
À propos de fabrication, je voudrais vous faire entendre une voix, c'est celle d'un poète, c'est Francis Ponge, qui parle de peinture. Et comme il parle de peinture, il parle d'opération, c'est pour ça qu'on a choisi cette archive, et il parle de langage.
Il faut que le travail soit sensible et présent dans l'œuvre elle-même. Par exemple, Picasso a préféré encore mes textes de La Rage de l'Expression, qui sont des textes dans lesquels je mets sur la table le travail littéraire, n'est-ce pas ? Que l'acte de l'artiste, si on veut, était une sorte d'opération, comparable en une certaine façon à une activité militante, n'est-ce pas ? Les militants qui travaillent pour changer les figures qui permettent de se voir et de se comprendre dans le monde, les figures à proprement parler. Je pense que ce que j'ai fait en commençant à parler beaucoup, c'est-à-dire en acceptant de faire des conférences et les faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire absolument dans le moment même, sans avoir quasi rien préparé, d'improviser absolument ma parole, il s'agit de dire au sens de dire, c'est-à-dire de parler dans le moment présent comme homme comme animal dans le moment présent et de montrer comment les choses se font dans le moment même, de créer la communication directe.
Francis Ponge, entretien au micro de Philippe Seller, c'était en mars 67 pour France Culture. Sur cette idée, Gérard Manset, de montrer le travail en train de se faire. Vous comprenez ce que dit ici Francis Ponge ?
C'est la démonstration absolue de ce que je ne connais pas, de ce que je ne veux pas connaître, de ce qui existe sans moi, c'est-à-dire ceux qui ne font pas, mais qui font des exégèses, qui interprètent, qui regardent, qui en parlent, qui soupèsent, qui soulèvent. Non, moi je suis de l'autre côté du truc. Moi, je fais. Vous savez, le mot de Picasso, c'est « je ne cherche pas, je trouve ». Un de ces mots, bon ben voilà, on n'a jamais eu à lui demander ce qu'il avait en tête lorsqu'il faisait. Et je n'ai pas non plus, moi, passé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire, j'en reviens à l'essentiel dans mon cas, hein, c'est peut-être un cas très particulier, c'est un cas exceptionnel et très particulier. Je suis un enfant de l'inspiration. Et donc, les choses m'arrivent, elles me viennent de Villon, elles me viennent de Ronsard, elles me viennent de je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas comment. Je suis simplement là, et mon seul peut-être talent, enfin mon essentiel talent, c'est de les juxtaposer, de les élaguer, d'être très vigilant là-dessus.
Allez, bâtisseur de pont, comme une poule pont, un artiste se donne comme un arbre ses fruits, peut-être s'enfuit. Dans les bâtisseurs de pont, dans du papier crépon, dans les gorges sans fond, tandis que la verdure, comme un arbre sans fruit et peut-être s'enfuit, lorsqu'il apprend un jour, alors que tendre était la nuit, que le monde a changé.
Est-ce que vous êtes un spectateur de concerts ? Est-ce qu'il y a des concerts qui ont eu leur importance pour vous, Gérard Manset ?
Alors très jeune, oui, enfin je me souviens d'un, c'était Otis Redding, avec la basse, là je le voyais marcher en avant, là ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il marchait dans le rythme, il enfonçait le sol, ça m'a beaucoup impressionné, je devais avoir 20 ans, je ne sais plus, ou 22, mais depuis j'ai pas dû sur scène voir qui que ce soit, j'ai vu une fois... Bruce Springsteen, là. Une fois, je l'ai vu, ça m'a moyennement impressionné. Bon, c'est une sorte de grosse artillerie où on n'apprend rien, quoi, où il y a des belles guitares. J'ai vu les Stones, j'ai dû voir un bout des Stones il y a très longtemps. Je me souviens même plus si c'est eux. J'ai vu Dylan, je suis resté sur 4 titres et je suis parti au milieu. Mais je voulais... Non, mais ça ne veut pas du tout dire que je n'apprécie pas Dylan. Au contraire, je respecte énormément. Lui aussi est un... Voilà, lui, il est autonome. Mais c'est beaucoup plus facile d'être autonome quand on est anglo-saxon. D'abord, la langue s'y prête mieux. Les musiciens comprennent la langue de la même manière, ce qui n'est pas le cas en français. En français, si on n'est pas Léo Ferré, la langue française ne marche pas. Et donc, si on est Léo Ferré, ben, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué. Mais donc, revenons aux anglo-saxons. À Dylan, je disais, voilà, je suis resté 5 titres parce que j'ai été assez fasciné. Il est arrivé de dos à 8 heures pile, puisque c'était 8 heures, à 20 heures pile. Il a chancé ses trucs en tournant pour l'essentiel le dos au public. Il a joué plus ou moins juste des guitares qu'on lui passait, qui étaient à moitié accordées. Les musiciens étaient relativement quelconques, enfin tout au moins ceux de cette série-là, c'était à Bercy il y a quelques années. Et puis, à un moment, j'ai fermé les yeux, et là, j'ai entendu le truc tel que je devais l'entendre. En regardant, on passait à côté. Ça a été une impression très particulière. Je conseille à ceux qui, quelquefois, vont au concert, de fermer les yeux. On entend autrement. En tout cas, là, en fermant les yeux, j'ai entendu Dylan. C'était magnifique. Mais bon, j'en ai entendu 4, je suis parti, ça suffisait. Je fais mon plein très vite, à ma décharge. Je suis repu immédiatement. Mais je veux dire, je suis chargé, je me charge immédiatement. Je suis une pile très, très active, ça va très, très vite.
Je reviens sur ce que vous disiez de cette distinction anglo-saxon et français et de la place que peuvent avoir certains auteurs. Si vous êtes Léo Ferré, ça va, vous êtes respecté, mais si vous ne l'êtes pas, c'est plus difficile, et particulièrement aujourd'hui.
Pardon, j'ai pas dit. Si on est Léo Ferré, on est respecté, je parlais de la langue française. Si on est Léo Ferré et qu'on parle en alexandrin et qu'on reprend je ne sais quel poète comme il en a fait 15 fois, ça va, ça roule tout seul, parce que la langue française est faite pour ça, pour être déclamée, dite. Mais si on essaye de l'utiliser autrement, c'est beaucoup plus compliqué. Non, je ne parlais pas de l'estime qu'on peut avoir vis-à-vis de l'eau ferrée. Mmh. Je parlais simplement du processus. Voilà, Brel, pareil. Brel, il n'y a pas de mélodie, ou il n'y en a quasiment pas. Et simplement, il nous assène des octosyllabes, des accents romains. Bon, ça marche tout seul. Il y a des rimes au bout. Jean Ferrat, c'est pareil. Tout ça, on est dans un registre acceptable quand on utilise la langue française. Et alors, évidemment, aujourd'hui, il y a le rap, il y a toute la musique contemporaine. C'est autre chose. Mais évidemment que la langue anglaise, elle marche tout à fait. Je me souviens qu'un jour, j'ai pris comme exemple une sorte de top list des hits, ça devait être dans les années 90, je ne sais pas quoi. Bon, on regarde les ne serait-ce que les titres de toutes ces chansons anglo-saxonnes. Tous les titres font rêver. On peut en voir 1000, alors qu'on regarde les titres en français, on pleure, quoi. On a un ramassis d'évocations instantanées dans l'anglo-saxon qui fait soulever les foules. Alors que pour la langue française, mignonne, allons voir si la rose, personne ne... Voilà, ça endort tout le monde. Moi, j'aurais été anglo-saxon. À 20 ans, j'aurais été à Londres, je serais né à Londres. Ben, évidemment que je serais une sorte de Bowie éternel et pérenne. Mais on est né à Paris.
On pourrait rester sur l'idée de peinture, puisqu'on vous connaît aussi dans cette discipline, Gérard Morcet. Vous avez commencé par là d'ailleurs, puisque vous avez fait vos études aux arts décoratifs. Vous étiez même lauréat du concours général de dessin en 64. Et je crois que c'est André Malraux, qui à l'époque était ministre de la Culture, qui vous a remis le prix, ce qui vous fait sourire, puisque évidemment tout ça n'est pas tout récent. Il y avait un peintre qui était, je crois, proche de votre famille, c'était Maurice Briançon, qui vous donne un conseil. Alors là, j'aimerais une explication là-dessus, sur l'impact que ça a pu avoir. Il vous conseille de dessiner de la main gauche, parce que votre dessin est trop parfait. Vous avez pris en compte cette remarque, quel impact ça a eu sur votre esthétique par la suite, Gérard Morcet ?
Oui, c'est vrai, j'étais jeune, ça m'a choqué, interloqué. J'ai trouvé ça inintelligible, tout simplement, pour un gosse de 14 ans ou 15 ans qui soi-disant qui dessinait trop bien et qu'il fallait qu'il s'ampute d'une main pour pouvoir continuer. Mais je mesure maintenant toute la sagesse de cet aphorisme et de cette image, parce qu'effectivement qu'il faut être maladroit, effectivement que c'est avec les erreurs et les croche-pieds qu'on avance, effectivement qu'il faut se méfier de tout talent immédiat et voilà, et qu'il ne faut pas être ingre. Et j'étais ingre quelque part. Il ne faut pas être ingre. Il faut pas avoir cette facilité. Alors, dans tous les domaines artistiques, c'est comme ça. Sauf peut-être pour ce qui n'est pas. Là, c'est le seul point sur lequel je pourrais rejoindre Gainsbourg. Je veux dire, c'est que oui, on est dans un art mineur. Donc, simplement, la chanson permet, l'handicotal, on a le droit de, comment je pourrais dire, de se servir de son talent, enfin, du talent des autres, c'est-à-dire de cette inspiration talentueuse. On a le droit de faire ça. Voilà, c'est de la chanson.
Après un instant de recueillement, Phrasilas toussa quelque peu, mit sa main droite dans sa main gauche, leva la tête, haussa les sourcils et s'approcha de la crucifiée que secouait sans interruption un tremblement épouvantable. « Bien que je sois, lui dit-il en maintes circonstances, opposé aux théories qui veulent se dire absolues, je ne saurais méconnaître que tu gagnerais, dans la conjoncture où tu te trouves surprise, à être familiarisé d'une façon plus sérieuse avec les maximes stoïciennes. » Zénon, qui ne semble pas avoir eu en toute chose un esprit exempt d'erreur, nous a laissé quelques sophismes sans grande portée générale, mais dont tu pourrais tirer profit dans le dessein particulier de calmer tes derniers moments. La douleur, disait-il, est un mot vide de sens.
Puisque notre volonté surpasse les imperfections de notre corps périssable. Alors si je redonne le contexte, hein, au-delà de la cruauté de celui qui dit ces mots à une jeune femme crucifiée qui agonise, hein, lui donner des maximes stoïciennes, c'est assez cruel. Mais est-ce que vous avez déjà fait vous-même cette expérience du combat de la douleur contre votre volonté ?
Non, je n'ai pas eu à me débattre dans des choix entre ce que mon corps aurait voulu et ce que mon esprit lui dictait de faire. C'était ça. Non, ça, j'ai jamais eu ce genre de choix, non.
Mais alors, pourquoi avoir choisi ce passage de Zénon qui vous est si cher ?
D'abord, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, puisque là, il est dans la théorie. Il s'adresse à quelqu'un qui est dans une situation catastrophique, puisque crucifié. Et on est plongé 2000 ans en arrière, puisque c'est les 30 premières années de l'époque ptoléméenne, je pense. Et donc voilà, et c'est un banquet d'érudits, d'artistes, et c'est plutôt l'évocation voilà, artistique de cette scène, la scène qui est magnifique. C'est ça que j'ai cité. C'est terrible, dramatique, tout ce qu'on veut, mais on est très loin d'une sorte de maxime à laquelle on pourrait réfléchir dans un monde actuel, c'est tout, quoi.
Puisque vous avez choisi Pierre-Louis, on le connaît aujourd'hui beaucoup pour les chansons de Bilitis, hein, mais les chansons de Bilitis, c'est l'histoire d'une mystification littéraire, puisqu'il a fait croire que c'était les traductions de poèmes. Je me demandais si vous aviez été tenté, puisque vous avez été auteur pour d'autres, pour vous-même, par la mystification ou le masque, Gérard Manset.
Évidemment que j'y étais tenté. On est tous admiratifs de Romain Gary, bien sûr, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, je rebondis et je le regrette d'ailleurs parce que je vivrais beaucoup mieux ces histoires de streaming ou d'Internet si j'avais un pseudonyme quelconque ou des pseudonymes. Enfin, en tout cas, je reviens sur l'histoire de Bilitis parce que je me suis interrogé après en repensant justement à Pierre-Louis et à Aphrodite, son érudition, les notes, l'introduction de toutes ces mythologies gréco-romaines, évidemment, parce que je me suis replongé dedans jusqu'aux yeux pendant un an. J'étais fasciné, j'avais oublié qu'on venait de là, qu'on ne peut pas s'en détacher, qu'on est imprégné par ça, et que ces déesses ou ces dieux qui venaient intervenir dans le monde des vivants, eh ben, on regrette que ce ne soit plus le cas. En tout cas, m'interrogeant sur Bilitis, je pense... Si, au contraire, ça n'était pas Aphrodite qu'il avait été détourné et que Bilitis n'était pas de lui, alors qu'Aphrodite peut-être ne serait pas. Parce qu'il y a quand même une telle érudition, proximité avec ce qu'a dû être la réalité égyptienne de cette Crisis et de ce Démétrios, alors que dans Bilitis, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'impression que le Bilitis est à la portée de tout le monde, donc à la portée de beaucoup d'auteurs contemporains ou du 19e. Mais que... l'architecture du Aphrodite, tiré Mœurs antiques, est tellement phénoménale, tellement impressionnante, que je serais plutôt porté à croire qu'il en a trouvé des bouts à droite et à gauche dans tous ses auteurs. Mais, encore une fois, je ne l'en estimerais pas moins pour autant.
Je rebondis sur ce que vous disiez juste avant. Vous regrettiez que nous n'ayons plus peut-être présent à l'esprit ces dieux, ces déesses. On comprend au travers de votre œuvre que le fait religieux est d'abord culturel. Quelle place a tenu ou tient encore la religion dans votre vie, Gérard Manset ?
Alors, ben, je peux dire quand même, effectivement, sans pour autant m'engager, je peux prendre la responsabilité de dire que je ne suis pas du tout pour un État laïque. Oui, je suis pour qu'on soit... Alors, je suis pour que toutes les religions coexistent, évidemment, qu'elles aient toutes droit de citer, qu'on puisse s'exprimer dans tous les domaines religieux. Mais je suis attaché, ben, c'est Combray, le premier chapitre ou le deuxième de Proust, voilà. Il décrit pendant 20 minutes l'arrivée vers ce clocher. Et ben voilà, notre vie, moi, je suis d'une génération où la vie, c'est un clocher. On n'y peut rien, c'est comme ça. Je suis né là-dedans. Hein. Je n'ai plus 20 ans, mais voilà. On a besoin d'avoir des divinités partout qui nous entourent. On s'endort avec des divinités. Dans les contes, il y a des divinités. Dans les contes, on parle aux dieux. Je ne suis pas pour les au-delà et tout ça, parce que je suis bouddhiste, hein, donc je remets les pendules à l'heure, mais je suis bouddhiste Theravada, c'est-à-dire l'enseignement primordial. Et bon, voilà. Mais on est pour un monde divin qui permet... de multiplier les compétences humaines par 10, par 100. Il suffit de voir nos cathédrales, il suffit de voir, le temple d'Angkor, pareil, tout le XIe siècle, dans tous les coins du monde, a généré des merveilles d'architecture et de sculpture et de finesse dues à la religion, quelle qu'elle soit, due aux religions.
Ce sera les mots de la fin. Merci Gérard Manset.
Merci. Je ne comprends jamais les allégories. Explique-moi, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire ?
Et bientôt 16h, on touche à la fin de ce numéro de Continent Musique. Gérard Manset, le nouvel album Opération Aphrodite est édité chez Parlophone, Warner Music. Laurent de Wild, Les Fous du Son d'Edison à nos jours, livre indispensable et vraiment passionnant, est édité chez Grasset. Je renvoie aussi à votre site, Laurent de Wild, hein, laurentdewild.com. Et puis vous serez en concert le 17 juin prochain à Lille, au Piano Festival. La suite, c'est à vous, Myriel Moneghetti.
C'était Continent Musique, un magazine de Mathieu Conquet, équipe de réalisation Olivier Guérin avec Nicolas Dalmas et Élise Leu. Préparation et archives, Myriel Moneghetti. Rendez-vous sur le site de France Culture pour retrouver toutes les informations autour de l'émission, pour podcaster Continent Musique ou l'écouter en ligne. Un grand merci à Marc Maré, à Michael Simon de la discothèque de Radio France et à Marc-Laurent Clotilde de l'INA.